18h10 ici à Paris. L'information continue avec Accent d'Europe.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Me voici tout essoufflé. Ouais, il y a le livreur qui arrivait entre temps, donc il a fallu que je descende rapidement les escaliers, mais heureusement, on est pour une fois avec une émission, une configuration d'émission. Au complet, on a nos invités, nos chroniqueurs, chroniqueuses, donc c'est parfait. Justement, bonsoir Mathéo.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, Johan n'est pas encore arrivé, mais c'est normalement, vrai. Deux et demi seront bien là ce soir.
Exactement, et sans retard, donc ce qui est assez rare quand même.
Bah, bravo, on peut les applaudir. Peut-être que oui, vous allez respecter les timings aussi.
Pas sûr.
Ah, pas sûr.
Désolé de te faire peur, Pierre-Benoît.
On peut pas tout avoir dans la vie. Bon, en tout cas, on parle de quoi avec vous deux ce soir?
On va parler d'un documentaire de Raoul Peck sur George Orwell, qui s'appelle Orwell 2 plus 2 égale 5, et qui revient un peu sur la fin de la vie de George Orwell.
C'est plus une chronique ciné, c'est une chronique mathématique, c'est avec 2,5, 5 plus 5.
Et littération.
Et littération. Tout à l'heure, autour de 18h30, ce sera quasiment en moitié d'émission. Bonsoir Sidonie. Sidonie, ça va?
Bonsoir Pierre-Benoît, ouais, ça va.
Tu fais pas grand chose ce soir?
Non, tranquillou, j'admire.
Voilà, c'est peut-être elle aussi qui va faire la technique. Donc si jamais il y a des erreurs, voilà, ce sera plutôt autour de vers elle qu'il faudra se tourner. On aura des invités et bien évidemment tu pourras répondre aussi, poser des questions si tu le veux, Sidonie. Mais c'est avec Chloé sinon que ça va se passer. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
On reçoit qui ce soir?
On reçoit l'association LADI. C'est la Ligue Angevine de la danse improvisée. Et on reçoit Ingrid et Elodie qui font partie de cette association depuis un petit moment et qui vont nous la présenter.
On connaît l'improvisation, la danse improvisée, je ne connais pas, je suis déjà curieux d'en apprendre davantage. Restez avec nous si vous aussi, vous avez envie d'en savoir plus sur l'ADI, la danse d'improvisation. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant d'accueillir nos invités, on écoute la Madeleine du Graal.
Plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal. C'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Daron, daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène littéraire qui a fait frissonner toute une génération, les livres « Chair de poule ». Ces petits romans d'horreur qui nous faisaient trembler sous la couette avec une lampe de poche. Chair de poule, ou Goosebumps en version originale, ce sont ces livres aux couvertures phosphorescentes et terrifiantes qui trônaient fièrement dans toutes les bibliothèques de classe et les clubs de lecture des écoles primaires des années 90. L'histoire commence en 1992, aux États-Unis, quand un certain R.L. Stein décide d'écrire des histoires d'horreur pour enfants. Le concept débarque en France en 1995 et c'est immédiatement le raz-de-marée. La cité des cadavres, le pantin maléfique, la maison des morts. Des titres qui promettaient des nuits blanches et qui ont été traduits dans plus de 30 langues. Qui n'a jamais dévoré ses livres à la couverture vert fluo sous les draps, à la lueur d'une lampe torche, en sursautant au moindre craquement dans la maison? C'est notre premier frisson littéraire, notre initiation à la peur. Contrôlez. Ne vous retournez pas, ne respirez pas, et surtout, surtout, n'ouvrez pas ce livre. Ces avertissements sur la quatrième de couverture étaient comme une invitation irrésistible à la transgression. Quel délice de se faire peur volontairement, puis de refermer le livre en se disant « ce n'était qu'une histoire ». Dans les bibliothèques scolaires, c'est la ruée. Des listes d'attente interminables pour le loup-garou des marécages ou la maison des morts. On s'échangeait les tomes comme des trésors dans la cour de récré. On se racontait les passages les plus effrayants pour impressionner les copains. Et vous vous souvenez des petites annonces à la fin de chaque livre? Rejoignez le club Chair de poule et recevez votre badge phosphorescent. Combien d'entre vous ont harcelé leurs parents pour envoyer ce petit coupon découpé soigneusement? Le génie de Ehrenstein, c'était de nous faire frissonner sans jamais vraiment nous traumatiser. Des histoires calibrées pour nous faire juste peur, ce qu'il faut. Des masques maléfiques, des marionnettes vivantes, des monstres sous le lit, des classiques de l'horreur revisités pour nos jeunes esprits. Et les parents dans tout ça? Eh bien, divisés entre ceux qui encourageaient cette lecture, au moins ils lisent quelque chose, et ceux qui confisquaient les livres. Non mais tu vas faire des cauchemars! Et, spoiler, on en faisait quand même des cauchemars. Mais quel plaisir! Le succès était tel qu'une série télévisée a vu le jour en 1995, diffusée en France sur Canal J. Qui se souvient du générique oppressant et de ce chien aux yeux lumineux? Une nouvelle dose d'adrénaline hebdomadaire pour notre génération assoiffée de sensations fortes, mais pas trop non plus. Et aujourd'hui, eh bien, Chair de Poule n'a jamais vraiment disparu. La série compte plus de 200 titres à travers le monde. Des films ont été produits en 2015 et 2018 et de nouvelles générations découvrent encore ces histoires, même si elles paraissent peut-être un peu sages comparées aux jeux vidéo d'horreur actuels. Ces petits livres ont été notre premier pas dans l'univers du frisson contrôlé, une façon d'apprivoiser nos peurs tout en nous divertissant. Ils ont créé une génération de lecteurs passionnés et probablement contribué au succès actuel des romans young adult et des films d'horreur. Alors, chers auditeurs, ce soir, je vous mets au défi. Éteignez toutes les lumières, prenez une lampe torche et ressortez votre vieux chair de poule du grenier. Vous verrez que le frisson est toujours là, comme une Madeleine de Proust, légèrement effrayante. C'était La Madeleine du Graal, un podcast produit par les studios 5 Sens. À bientôt pour un nouveau voyage dans vos souvenirs.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
La Madeleine du Graal que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Si vous avez envie de déclamer vos poèmes sur le thème de la liberté, je crois Sidonie pourra le confirmer, le Slam Poésie Club, là, ça a commencé les inscriptions jusqu'à 20h. C'est au Welsh, place Saint-Bac. Sidonie, c'est bien le thème de la liberté ce soir?
Oui, oui, tout à fait. On peut venir pour le chanter, le chuchoter, le crier s'il faut, et tant qu'on parle de liberté.
Voilà, dis-nous, c'est un thème qui a l'air de bien te parler. Je t'encourage éventuellement, si tu veux, à aller t'inscrire. Pourquoi pas? On est partenaire en tout cas avec le Slam Poésie Club. On était avec Malik la semaine dernière. On vous renvoie vers le podcast. Et sinon, restez avec nous pour accueillir nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et ce soir, c'est avec toi, Chloé.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on accueille d'ailleurs Ingrid, vice-présidente de l'ADI depuis bientôt un an et demi, et danseuse depuis 7 ans surtout, et Elodie, qui est une des fondatrices de l'association, la directrice artistique et la coach depuis presque 10 ans. Ça en fait des casquettes. Donc, vous êtes membre de la Ligue Angevine de danse improvisée, qu'on appelle l'ADI. Bonsoir Ingrid.
Bonsoir.
Et bonsoir Elodie.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Très bien. Ouais, super.
Donc, ce soir, on va parler de danse improvisée, de l'association, et on parlera évidemment du match d'improvisation qui aura lieu le 14 mars. Alors du coup, racontez-moi un peu, c'est quoi la danse improvisée concrètement?
Allez, c'est parti. Alors la danse improvisée, c'est une approche un peu différente de la danse, en tout cas différente de celle qu'on connaît de la danse, puisque l'objet, c'est pas forcément de suivre une chorégraphie qui est proposée par un prof de danse, un chorégraphe, quelque chose comme ça, mais c'est davantage une expression qui part de soi. Donc l'idée, c'est d'aller pouvoir danser librement à partir de ce qu'on l'on est, de son corps, de son vécu, de son expérience, et d'exprimer des choses. Et dans cette grande liberté, dans cette grande possibilité de pouvoir danser en étant soi-même, eh bien ensuite on oriente. Et on va orienter en fonction de contraintes qu'on se donne, de thématiques, de questions à répondre. En fait, c'est vraiment une manière de parler, mais en dansant. Et donc du coup, ben en fait, on joue avec, on le joue seul, on le joue à plusieurs, à deux, à trois, en grand groupe. Et à partir de là, eh bien on monte des spectacles. En tout cas, c'est nous comme ça qu'on prend la danse improvisée au sein de la LADI.
Ok, super. Bah justement, vous avez un peu avancé ma seconde question. Du coup, vous disiez que c'était aussi une manière de s'exprimer. Quand on n'a pas les mots, bah, le corps parle à notre place. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que ça agit aussi, par exemple, sur la confiance en soi, sur le rapport aux autres, peut-être le stress aussi?
Ah oui, complètement. Oui, 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 tout à fait. C'est un formidable moyen, un formidable outil pour déjà pour lâcher prise. C'est un espace de lâcher prise, c'est un espace où on peut vraiment sortir ce qu'il y a en soi, l'exprimer. Tout espace d'expression, ça crée beaucoup de bien-être, puisque du coup c'est une manière d'aller dire au monde qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et puis effectivement derrière tout ça, au fur et à mesure, on gagne en confiance. On gagne en capacité à s'adapter les uns aux autres, on se connecte, donc on apprend aussi beaucoup du collectif, c'est aussi énormément d'apprentissage autour du collectif. Et oui, c'est un espace très 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 riche pour pouvoir se découvrir, découvrir les autres, et puis se faire du bien.
Et toi du coup Ingrid, t'es danseuse là-bas, est-ce que tu ressens un peu la même chose ?
Oui, justement je voulais apporter mon point de vue de danseuse. C'est qu'en fait, ce qui est génial avec la danse d'impro, comme on la conçoit, la Ladi, c'est qu'en fait, c'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la danse avant. En fait, on travaille sur la technique d'improvisation ensemble, en collectif. Et en fait, ça, c'est un super pouvoir qu'on a, parce que du coup, tout le monde peut danser et montrer des choses en collectif. Et ça donne vraiment du pouvoir à chacun, en fait. Donc, la Ladi, c'est un peu un super pouvoir.
Et du coup, toi, comment t'as découvert cette façon de danser, cette improvisation ?
Oh, j'ai découvert parce que j'avais parlé avec une danseuse dans un blablacar un jour. Je suis tombée sur Marie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et elle m'a expliqué ce que vous faisiez. Donc, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et j'ai dit, mais en fait, c'est exactement ce qui manquait à ma vie. Donc, à la rentrée, je suis là. Et j'ai jamais arrêté.
Ah bah, c'est bien, ça montre que les expériences... ça aide à vous, peut-être vous pousser à faire des choses que vous auriez pas fait, en fait, et que vous connaissiez pas. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? C'est cette manière d'apporter de la confiance?
Alors, c'est déjà le rendez-vous chaque semaine, tous les lundis, avec des cours géniaux donnés par Elodie. Le groupe, qui est incroyable. c'est dingue ce qu'on vit. On vit une vraie aventure humaine. En fait, on a deux groupes. On a un groupe de danseurs et de danseuses loisirs, en début de soirée, le lundi. Et puis Elodie nous donne un deuxième cours à ceux qui ont rejoint le groupe technique. Donc en tout, on est une trentaine. Et franchement, venez nous voir en spectacle parce que vous allez halluciner. Enfin, ça transparaît en fait, cette cohésion de groupe. Tout le monde nous le dit tout le temps, qu'on ressent quelque chose d'énorme. Et ça fait très longtemps qu'on danse ensemble au final. Donc ouais, il y a ça qui me plaît beaucoup.
Et est-ce que c'est difficile difficile qu'une chorégraphie préparée? Est-ce que je pourrais avoir le point de vue des deux, niveau coach et niveau danseuse peut-être?
Vas-y.
Est-ce que c'est plus difficile? Alors je crois que c'est vraiment très très différent. Apprendre une chorégraphie, il y a quand même un certain nombre de choses à caler dans son corps et à reproduire exactement. Et ça peut créer une certaine pression. En tout cas pour certaines personnes, ça crée de la pression. Il y a cette idée à un moment d'atteindre un niveau, d'atteindre une exactitude et d'être entre guillemets parfait. Là, on n'a pas du tout le même angle. Donc du coup, cette pression-là, elle tombe. Et ça, pour ça déjà, c'est une formidable espace de liberté. C'est un espace très très fort de liberté. Ça dégage énormément de cette espèce de regard et de jugement qu'on a sur soi-même ou qu'on a sur les autres. Tout ça, foup, au placard. Et est-ce que c'est plus difficile? Eh ben, ce qui peut-être est un petit peu plus pointu, c'est d'aller s'autoriser à faire ça. Et ça, dans notre histoire, dans notre monde, dans notre société, des espaces où on va danser, des temps de danse où on peut se permettre d'être tel qu'on est, il y a quand même une petite appréhension au départ. Il y a quand même, les gens arrivent en se disant, mais est-ce que je vais y arriver en fait? Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais me faire confiance? Est-ce que je vais oser prendre l'initiative, proposer des choses? Donc oui, ça ramène à cette force qu'on a à se redonner à soi-même pour franchir le pas. Quand on franchit, après, on y prend goût, mais on lâche rien, hein, parce qu'en fait, ça, c'est un goût, quand on commence à mordre là-dedans, c'est très puissant, comme disait Ingrid. Et derrière, plus on le fait, plus on fait, plus on expérimente, et plus on trouve ça finalement facile, ou en tout cas plus aisé que des choses chorégraphiées.
T'es d'accord un peu avec les appréhensions qu'elle a citées?
Oui, tout à fait. Moi, les chorégraphies, c'est un enfer pour moi. C'est une énorme contrainte, un énorme cadre. Et en fait, la danse d'impro, c'est exactement totalement différent parce qu'en fait, on n'a rien sur lequel se reposer. On est un peu à poil, on est un peu tout nu. Mais je dis rien, c'est pas vrai parce qu'en fait, on a les autres. Et ce qu'on apprend, c'est vraiment des techniques d'improvisation. C'est quels outils on sort de sa banette quand on est à poil. Quelle première chose on fait, sur quoi on compte avec les autres. Voilà, comment est-ce qu'on s'organise entre nous pour être à poil ensemble et faire un truc qui envoie du pâté. Et enfin, je trouve ça génial. On crée à partir de rien. On connaît pas la musique, on connaît pas le thème, on connaît pas les contraintes, on connaît rien du tout. Juste, on va sur scène et c'est parti et on suit le flow.
Du coup, ça crée une vraie cohésion, je pense, entre vous. Ça crée une ambiance peut-être qui, enfin, un peu symbolique aussi, peut-être.
Ah mais oui, en fait, on vit des aventures tout le temps ensemble, des grandes aventures dangereuses tout le temps ensemble. Donc, je peux vous dire que ça crée vraiment du lien.
Et qu'est-ce que tu ressens quand t'improvises? Est-ce que ça t'apporte, comme tu disais, peut-être un peu de stress au départ, mais je pense qu'au final, ça apporte peut-être une satisfaction personnelle de se dire ça y est, j'y arrive, en fait, je peux m'exprimer librement.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal d'appréhension de stress au départ, mais, et ça, c'est ce que Elodie t'a apporté, je trouve, à transformer ce stress en positif tout le temps. Il y a aussi un état d'esprit. Je pense qu'il y a de la danse d'impro et il y a la danse d'impro vue par la Ladie. C'est un état d'esprit spécial où en fait, il faut être honnête, en impro, on fait des gros beats des fois. Vraiment, ça fait des énormes flops. Et bien, à chaque fois, on le transforme mentalement pour que ça nous serve de tremplin. Je sais pas comment t'as fait, Elodie, mais je t'apporte ça. Où chaque truc nul, et ben on les voit pas comme des trucs nuls. On l'a intégré que c'était bof, mais en fait, on rit de ça et on rebondit de ça. Ça nous donne l'énergie. Enfin, c'est...
Ouais. C'est un espace d'apprentissage, en fait. On est tout le temps en train de se dire, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ok, ça s'est passé comme ça. On apprend quoi? On fera comment la prochaine fois? Comment on utilise ça comme des ressources continuelles? Et sur ce chemin-là, en 9-10 ans, eh ben oui, ça crée un lien entre les gens. Parce qu'en fait, on y va vraiment main dans la main en se disant, bon, ben là, on a ce thème-là, on doit répondre à tel ou tel objectif. Wow, on y va, on se lance, on saute dans le grand bain. Et effectivement, donc ça renforce ce lien-là incroyable. On construit ensemble. Et effectivement, à chaque fois, on gravit des paliers de, entre guillemets, difficultés, ou en tout cas, je sais pas si c'est difficulté, mais on est de plus en plus pointu, on est de plus en plus précis, on est de plus en plus bon, on répond de mieux en mieux, on est de plus en plus juste dans les réponses. Et ça, c'est assez grand quand même. Parce que, au bout du compte, de temps en temps, il y a des vrais moments de grâce où on fait, waouh! En fait, là, on a fait un truc incroyable et on l'a fait tous ensemble. Et ça, c'est tous et toutes ensemble. Et ça, c'est énorme.
Et du coup, Ingrid, peut-être, qu'est-ce que ça peut t'apporter au quotidien, par exemple, peut-être dans ta vie personnelle, dans tes autres métiers?
Alors là, en fait, l'impro, mais je pense que pour le théâtre, c'est pareil aussi. Je pense que c'est le fait de faire de l'impro. Comme ça, on peut dire à haut niveau, en fait. Enfin, on est devenu vraiment, vraiment bonne. Et ben, j'ai l'impression que toute l'impro, elle peut nous servir dans notre vie tout le temps. J'ai l'impression que l'impro, c'est la vie. Enfin, toutes les leçons que je tire de la Ladie, je les utilise dans ma vie. Que on est au plus juste quand on est soi, tout le temps, et que on touche au plus juste quand on est soi-même tout le temps. Les autres, c'est notre pilier. Enfin voilà, en fait, je pourrais énumérer plein de choses que j'ai tirées au fur et à mesure et que j'ai plaquées dans ma vie, tout ce que j'ai appris en impro, quoi. Mais oui, non, c'est vrai. Je vous encourage à venir et découvrir ce monde parce que vraiment, il y a plein de choses à en tirer.
Oui, je pense qu'on peut pas trop comprendre tant qu'on l'a pas testé, peut-être. Merci Ingrid, merci Elodie. On reviendra après sur l'histoire de l'association et votre rapport toutes les deux à celle-ci. Et voilà.
Et oui, et puis on parlera aussi de l'événement, bien évidemment, le fameux événement. Puis tout à l'heure, je demanderai à Sidonie ce qu'elle en pense, elle qui a fait de la danse dans sa jeunesse. Mais juste avant tout ça, on écoute Justice Dance sur le 101.5 FM.
Yeah.
Dance de Justice. Justice sur le 101.5 FM, vous êtes à l'écoute de Topette.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Puisqu'on parle de danse justement avec Chloé et ses invités, mais puisqu'on parle de danse, je me tourne vers Sidonie. Est-ce que toi tu connaissais la danse improvisée qu'on évoque ce soir ou pas
je
du tout?
Je connaissais pas du tout. Après, je sais que dans mon club de danse, ça nous arrivait des fois de faire des cours comme ça où on faisait un peu genre on se libérait des choses comme ça. Mais c'est toujours gratifiant. C'est vrai que c'est un autre style. C'est plus on est appuyé sur une chorégraphie, on n'a plus nos piliers. C'est le groupe pour du coup le pilier comme vous l'avez très bien dit, Ingrid. Mais franchement, ça peut être à faire. Moi qui a décroché du coup la danse parce que c'était un peu trop réglementaire, là pourquoi pas.
Voilà, une nouvelle adhérente peut-être. Faudra juste faire un blabla car avant pour rejoindre l'équipe.
Pour se motiver.
Voilà, Chloé.
Oui, du coup on est toujours avec Ingrid et Elodie, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Vous allez maintenant nous parler de l'association et de votre rôle respectivement dans celle-ci. Déjà, comment est née l'association?
Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps, en 2017, on a fait, en fait, on s'est lancé direct en faisant un match d'improdance. Ça a été notre premier pas. En fait, ça existait en théâtre improvisé et nous, on s'est dit, il n'y a pas de raison, on aimerait lancer la chose en danse. À l'époque, moi, je travaillais aussi pour une association qui s'appelle Orange Platine, donc c'est avec cette association que s'est lancé le premier mouvement, le premier événement, ce match d'improdance. C'était un peu fou parce qu'on savait pas du tout ce qu'on allait faire. On était complètement, enfin voilà, c'était un peu tête brûlée. On se dit, allez, ça existe pas, il faut qu'on tente. Donc on a réuni des danseurs, des danseuses, semi-professionnels à l'époque. On a fait un match, on a fait ça dans le bar du quai. Et il y a eu 300 personnes qui sont venues. Ça a été dément, ça s'est hyper bien passé. Ça a été, voilà, ça a eu une belle énergie, tout le monde a adoré. Et derrière ça, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant, mais attendez... En fait, est-ce qu'on peut prendre des cours, quoi? En fait, ça nous tente, nous, vous lancez des trucs, quoi. Et donc, du coup, on a lancé des cours. Donc, on a déployé une première saison comme ça, avec des cours le lundi soir. Enfin, à l'époque, c'était le mardi, mais maintenant, c'est le lundi. Il y a eu un stage aussi, un premier stage pour voir si ça marchait bien. Et puis, hop, c'est parti. On a eu les premières personnes comme ça. Donc, c'est ça, ça a été le premier mouvement de la LALDI. Ça a été ce démarrage-là. Et il y a eu un deuxième temps, et là on en a parlé tout à l'heure, Ingrid est vice-présidente de l'association de la LADI depuis un an et demi, parce que il y a un an et demi, eh ben on s'est autonomisé, c'est-à-dire que Orange Platine dans son parcours, donc Orange Platine c'est une association qui travaille autour de l'improvisation sous toutes ses formes, dans son parcours a dû se dégager de certaines activités et donc devait se dégager de la danse. Nous on s'est dit, ben nous on continue, mais on va s'autonomiser, on va devenir une association.
Et du coup, ça vient de toi le nom peut-être?
Non, ça vient pas de moi. Alors, on était plusieurs du coup fondateurs au début de la LADI au sein d'Orange Platine. On était trois notamment, donc Antoine Aupetit, Quentin Martineau et moi. Je crois que c'était Quentin. Enfin voilà, ça s'est venu. Comment réussir à mettre Angers danse improvisée?
C'est voilà. Quentin qui l'a dit.
Le tout nom à fait. Ouais, okay. Bravo.
C'est ma seule intervention. Je
Il fallait trouver comment placer ligue. En fait, c'est venu assez simplement. Bon voilà, là la DNA et puis voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle, parce que on a dit que t'avais été fondatrice, tu es aussi directrice artistique et coach. T'as fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est ton seul métier aussi, ou est-ce que tu fais d'autres choses? Et puis nous raconter un peu ce que tu fais au sein de la ligue.
Ok. Alors effectivement, je suis une des quatre, même, parce que on était quatre à l'origine, des quatre fondateurs fondatrices de la LADI. Donc ça, c'est parce qu'on a lancé le mouvement tous les quatre ensemble. Parce que je rajoute aussi Charlène Georgeon, qui est la présidente actuelle de la LADI, qui était qui faisait partie de ce petit noyau là de fondateurs fondatrices. Donc ça, c'était au départ. Coach, parce que du coup, effectivement, j'entraîne en fait les danseurs, les danseuses. D'ailleurs, plus des danseuses que des danseurs, mais il y en a quand même, et c'est très agréable. Depuis le début, depuis la fondation de la Ligue, je les entraîne toutes les semaines. Donc, je les entraîne au niveau de la danse. On a un complément, un autre rapport un petit peu en théâtre d'improvisation. Donc, je ne suis pas la seule intervenante. Il y a moi et il y a un regard qui vient un petit peu sur le théâtre au cours de l'année. Voilà. Donc je les entraîne, ça veut dire que c'est moi qui fais les cours en fait, c'est moi qui leur donne du grain à moudre, qui apporte des choses, qui les entraîne sur toutes les possibilités qu'on peut faire en improvisation, qui travaille sur les techniques, qui crée le collectif, voilà, enfin voilà, j'anime l'ensemble de ça. directrice artistique parce que j'ai le regard d'ensemble pour faire en sorte que quoi qu'il arrive au fur et à mesure de la vie de la Ladie, on garde une certaine approche, on répond à la ligne artistique qu'on s'est donnée et donc aux objectifs qu'on s'est donnés, à notre souhait, à nos désirs, à nos envies et qu'on s'écarte pas trop, quoi, qu'on reste bien axé là-dessus. Donc j'ai une vue aussi sur ce qui se passe un peu sur tous les projets de la Ladie qui se sont aussi diversifiés au fur et à mesure, quoi.
Et toi Ingrid, du coup? Tu es vice-présidente, c'est ça?
Oui.
Et danseuse.
Oui. À part ça, moi j'ai plusieurs activités, donc je suis artisane d'art. J'ai une entreprise de carrés de soie, donc je peins des tableaux que j'imprime sur de la soie, ça s'appelle Ours Blanche. Je travaille aussi en tant qu'agronome dans la formation sur la fertilité des sols agricoles, donc totalement un autre domaine, l'agriculture. Et je suis aussi tutrice pour des apprentis à l'école d'agriculture LESA à Angers.
Et du coup, ton rôle, toi, au sein de la Ligue, en tant que vice-présidente, qu'est-ce que tu fais concrètement?
Oui, c'est vrai, je me suis trompée de question. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. N'importe quoi.
C'est en auto-promo, je pense.
Désolée, je suis un peu fatiguée. Moi, mon rôle, bah, oui, en fait, on s'est défini des rôles dans le CA. Et, bah, normalement, la vice-présidente, il y a pas mal de rôles. Normalement, on fait pas mal de communication externe, de partenariat, de promotion de la Ladie, et puis aussi un regard sur les dates qui arrivent. Mais en réalité, on fait des choses un peu différentes de ce qu'on avait écrit au départ. Mais en vrai, moi, je fais beaucoup de partenariat et de communication.
Super. Donc, on voit que cette association, elle est importante pour vous deux et que la danse improvisée, ça vous a réellement apporté quelque chose. C'est pas terminé. On se retrouve juste après pour parler du match d'impro qui aura lieu le 14 mars dans la salle de spectacle de la...
Oh, pardon, excuse-moi.
Tu me coupes. De la Maison pour tous, à mon plaisir.
Je suis fatiguée aussi, c'est pour ça. Oui, on reste ensemble, bien évidemment. On fait juste un petit détour par un peu de cinéma avec Mathéo. Voilà, sur le 101.5 FM.
En 1936, la guerre civile fait rage en Espagne. Elle durera 3 ans et fera au total 500 000 morts. À l'époque, Eric Arthur Blair a 33 ans. Il est un Anglais issu de la classe moyenne. La prospérité de sa famille est une façade montée grâce à l'impérialisme britannique qui leur permettait de se fondre dans une certaine opulence en Jamaïque ou en Birmanie, chose qui leur était impossible en Angleterre. Lui est conscient de cette situation. Il l'a comprise lors de son passage dans la police impériale en Birmanie. Il passera 5 années sur place, le temps de détester l'impérialisme britannique. Il rentre, souhaite se consacrer à l'écriture et c'est ce qu'il fait. S'il y a bien une chose qu'Eric Arthur Blair est par-dessus tout désormais, c'est le fascisme. S'il n'arrive pas à rentrer dans le Parti communiste britannique, il part en Espagne en décembre 1936 pour prêter main forte à la résistance marxiste du POUM. De retour en juin 1937 en Angleterre, il aura expérimenté 2 choses. Se retrouver proche de la mort, lui qui a été touché par une balle dans le cou le mois précédent, et le stalinisme, qu'il met désormais dans la même case que le fascisme, comme les 2 visages d'un même monstre. Dans Why I Write, il écrit « Chaque ligne de travail sérieux que j'ai écrit depuis 1936 l'a été directement ou indirectement contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique ». Son expérience espagnole lui inspire une partie du livre de la fin de sa vie, une œuvre qui, sans cette année passée entre le front d'Aragon et de Barcelone, n'existerait sans doute pas. Une expérience dystopique totale, pourtant prémonitoire, sortie en 1949, 1 an avant le décès de son auteur. Ce livre, c'est 1984 d'Eric Arthur Blair, plus connu sous le nom de George Orwell. Il y a tout juste une semaine sortait en salle le documentaire de Raoul Peck, Orwell 2 plus 2 est égal 5. Un film dans lequel le cinéaste haïtien revient sur l'œuvre culte de l'écrivain anglais, mais pas seulement, plongé dans une mise en abîme de notre époque.
Je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer.
Again, how many fingers?
Mon point de départ, c'est toujours un sentiment d'injustice. Le concept même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde.
I'm going to set down what I cannot say aloud to anyone.
Cette perspective m'effraie bien plus que des bombes.
Cinéaste haïtien majeur du cinéma contemporain, Raoul Peck construit depuis plus de 30 ans maintenant une œuvre profondément politique, exigeante et engagée. Alors on va revenir sur un peu les grands moments de sa vie. C'est un ancien ministre de la culture en Haïti, Formé en Europe et aux États-Unis, il s'est imposé comme l'un des grands documentaristes internationaux capables de relier histoire, mémoire et lutte contemporaine. Le grand public l'a découvert avec son documentaire sorti en 2016, nommé aux Oscars, qui revisite la pensée de l'écrivain James Baldwin pour interroger le racisme structurel aux États-Unis. Un film puissant, entièrement construit à partir d'archives et de textes, où Peck donne à voir comment le passé éclaire brutalement le présent. Mais son cinéma ne se limite pas aux États-Unis. Avec Lumumba, il revenait déjà sur l'assassinat du leader congolais Patrice Lumumba, livrant une fresque politique dense sur les violences coloniales et les manipulations internationales. Et plus récemment encore, le jeune Karl Marx explorait la naissance d'une pensée révolutionnaire, c'est le nom de son film, montrant un Marx jeune, brouillonnant, ancré dans les combats sociaux de son époque. Ce qui traverse toute son œuvre, c'est une même obsession, démonter les mécanismes du pouvoir, révéler les angles morts de l'histoire et questionner la fabrication des récits dominants. Chez Raoul Peck, le documentaire n'est jamais neutre. Il est une arme critique, un outil de lucidité. Bon, vous l'aurez compris, le bonhomme est plutôt engagé et c'est ce type de cinéaste dont aussi on a besoin vu les actualités dans le monde. Avec 2 plus 2 égale 5, il s'inscrit donc dans une continuité évidente, interroger la manipulation du réel, décrypter les systèmes d'oppression et tout ce qui s'ensuit.
Orwell est le parfait auteur, penseur, qui a mis sur la table la matrice même d'analyse de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Le fondament même du film, c'est que je vais chercher dans Orwell tous les mots qui permettent de percuter la réalité.
Revenons-en à Orwell, lui qui a toujours souhaité devenir écrivain, mais de quoi pouvait-il bien parler ? Après 1936, la solution est toute trouvée. Si George Orwell est aujourd'hui connu de tous, c'est pour deux œuvres. La ferme aux animaux, satire de la révolution russe et critique des régimes autoritaires dans le stalinisme, et 1984, son dernier grand récit sur le totalitarisme. Dans ce dernier, il s'imagine un futur proche dans lequel trois grandes forces militaires et totalitaires dominent le monde et ses habitants. Manipulation de la vérité, torture, surveillance de tous les instants et évidemment la figure emblématique du pouvoir, Big Brother. Orwell s'inspire donc de son époque, Big Brother c'est Staline, Emmanuel Goldstein c'est Trotsky, les purges sont inspirées des procès de Moscou, l'esthétisation de la haine collective dans les 2 minutes de haine et l'embrigadement de la jeunesse viennent des nazis, le ministère de la vérité naît de l'expérience d'Orwell à la BBC, il y a tant de choses qui rappellent son époque, Orwell dénonce et met en garde avec la novlangue. Il montre que le langage, une fois son vocabulaire réduit, restreint la capacité à penser dans un monde où les intellectuels, comme ceux qu'il avait croisés à la BBC, s'écrasent sous le poids des régimes. Le danger véritable du totalitarisme n'est pas la torture physique, mais la destruction de la notion de vérité. Briser suffisamment l'esprit, le modeler à sa façon pour que l'allégeance au parti soit totale, pour que 2 et 2 fassent 5.
Selon les principes de la double pensée, peu importe que la guerre ne soit pas réelle, ou si elle l'est, que la victoire ne soit pas possible, la guerre ne vise pas la victoire, elle vise à être continuelle. L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte.
Alors, je dois l'avouer, hein, pour moi, c'était une première aussi que je regardais un film de Raoul Peck. Même en connaissant le pitch de 2 plus 2 égale 5, j'avais à la fois des attentes et quelques craintes. S'attaquer à une icône comme George Orwell sous le prisme de notre monde contemporain, c'est presque une évidence. Mais quoi raconter de plus que ce que raconte déjà 1984 ? Mais très vite, Peck m'a montré comment il comptait s'y prendre, par la puissance narrative et visuelle. Son idée de tisser trois temporalités, la nôtre, la vie d'Orwell et celle du roman, fonctionnent à merveille. Les époques dialoguent sans cesse, se répondent, se contaminent, les images parlent d'elles-mêmes et le sentiment d'implication marche. On n'est pas dans l'illustration scolaire, mais dans un montage vivant qui fait émerger du sens. Et pour le fond, top aussi pour ma part, parce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à voir un seigneur fier de ce qu'il connaît de la vie et de nous le montrer en image, mais on sent vraiment qu'il s'implique dans les problématiques et se responsabilise comme nous. Pas de relation élève-professeur, comme je disais auparavant. Et à travers ce documentaire, il restitue très très bien les mémoires d'Orwell aussi. Ma grande crainte, c'était un peu l'effet aussi cours de philo. toutes les 10 minutes avoir une citation d'Orwell, mais le film évite brillamment cet écueil. Le propos est dense, oui, mais jamais assommant. Tout est question de dosage. Le symbolisme ne passe pas d'abord par de longs discours, mais il passe par l'image avant tout, par le montage, par la correspondance visuelle, et c'est précisément là que le documentaire trouve sa force. Il ne nous explique pas Orwell, il nous le fait ressentir dans notre présent. Et c'est un docu à voir pour les gens, pour éveiller les consciences, en tout cas, je l'espère, ou alors pour en apprendre plus sur la vie d'Orwell. Pour moi, c'est un grand oui.
Les mots démocratie, liberté, justice ont tous plusieurs sens différents qu'il est impossible de réconcilier. Le langage politique est conçu pour donner au mensonge un air de vérité.
The love in the air, I've never seen anything like it.
Et que le meurtre semble respectable.
"1984" est un incontournable, car la pensée d'Orwell l'est, tout simplement. Et c'est ce qui rend le documentaire de Raoul Peck immanquable. Car il faut être conscient, lorsqu'on arrive dans la salle et que la voix nous guide tout le long du film, ce n'est pas celle du réalisateur. Si elle est physiquement celle d'Eric Ruff, c'est surtout une lecture du journal écrit par Orwell à la fin de sa vie. 1984, il prend une place prépondérante, mais pas absolue. Il n'y a pas que cela, et c'est ce qui rend ce documentaire aussi bon. La grande force du livre, c'est de prévenir avec des éléments passés, alors Raoul Peck s'en sert. Il se lance dans une grande dénonciation du monde moderne, des maux qu'il gangrène et des barbaries humaines. C'est la force du documentaire. Trois strates temporelles pour un seul récit, et c'est fluide. C'est bien pensé, bien monté, on ressent des choses et on comprend l'horreur. Chine, États-Unis, Russie, tant d'États devenus totalitaires y sont évoqués. Mais Raoul Peck en fait beaucoup. C'est quelqu'un qui est très instruit, qui a une petite mais importante carrière politique. Lui, l'ancien ministre de la Culture d'Haïti, a vu bon nombre d'événements gravissimes se passer dans le monde. Et c'est comme si dans ce film, on voyait tout. Les génocides en Indonésie, à Gaza, au Cambodge, la guerre civile au Myanmar, hein, qui prend aussi beaucoup de place, car à l'époque d'Orwell, ce pays s'appelait la Birmanie. C'est donc le lieu où Orwell a expérimenté de la manière la plus complète l'impérialisme britannique. Tous ces sujets ne sont pas creusés. Si le documentaire a un défaut, c'est peut-être celui-ci. Il ne s'adresse pas du tout à un public qui n'est pas averti. Pour une grande partie des sujets modernes, Raoul Peck part du principe que nous savons. Il les met comme des références pour dire « Regardez, Orwell l'avait dit. Vous vous souvenez de cet événement ? Eh bien, il correspond à tel slogan dans 1984, telle affirmation du journal d'Orwell. Il tombe parfois dans la glorification plutôt que d'expliquer la pensée de l'écrivain. Le documentaire reste le film à voir de toute urgence en salle en ce moment, ne serait-ce que pour le message qu'il porte. C'est une expérience différente, alternative, mais florissante, de réflexion. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Voici les trois slogans du parti dans 1984. À notre époque, lesquels sont vrais, lesquels sont faux ? Après avoir vu l'œuvre de Raoul Peck, on ne saurait que dire.
La liberté, c'est l'esclavage. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Le totalitarisme, si on ne le combat pas, peut triompher n'importe où.
Merci beaucoup, Johan et Mathéo. Mathéo, à qui le prénom, on enlève deux lettres seulement, on les inverse, on les remplace, ça fait danse. Bah, ça tombe bien, puisqu'on reparle de danse maintenant dans Topette avec Chloé et ses invités.
Topette avec Pierre Benoît.
Nous sommes toujours avec Ingrid et Elodie. Elles vont maintenant nous parler du prochain match d'impro en danse qui aura lieu le 14 mars, toujours à la salle de spectacle de la maison, pour tous à mon plaisir, c'est bien ça ?
À Angers.
C'est ça. C'est quoi un match d'impro en danse ?
Alors, avant que tu répondes, Elodie, juste pour recaler un peu tout ça, à la Ladi, en fait, on fait plusieurs types de spectacles. On a le cabaret, le match, les impromptus dans la rue, on a des cabarets totalement sur mesure, en fonction des lieux qui nous passent commande des spectacles. Donc voilà, en fait, on a tout un panel de spectacles qu'on peut faire selon la demande de telle ou telle structure.
Et effectivement, on a monté nous-mêmes les matchs d'impro danse. Le match d'impro danse, c'est l'équivalent du match d'impro théâtre, que vous connaissez peut-être, en danse, tout simplement. Donc même décorum, même façon de faire, on a un espace, une scène, on a un arbitre, on a un MC qui va animer la soirée et animer le spectacle. On a deux équipes. L'arbitre lance un thème, lance une contrainte, lance un défi. Et les équipes vont répondre à ce défi, danser, en proposant leur version dansée de la thématique du défi demandé. Soit chacune leur tour, soit ensemble. Et elles ne connaissaient rien avant. Et elles ont juste 45 secondes pour se mettre d'accord.
Est-ce que c'est un petit peu ce qu'on a pu voir au JO pour le breakdance? Ou pas?
Alors là, si tu nous compares à les JO,
c'est pas un comparatif forcément, mais non, je savais pas si c'était bien pris ou pas, mais c'est ça dans l'idée. Il y a aussi c'est une battle un peu dans ces formats-là de danse.
Non, c'est une construction collective. Okay. En fait, les deux équipes, chaque équipe va devoir construire collectivement un truc qui tient la route et qui fait sens pour le public. En fait,
oui,
on danse pour
d'équipe.
Le public. Ouais. On fait un spectacle pour le public, ça doit lui parler, ça doit l'émouvoir, etc.
Et de thématique, il faut répondre à une thématique. Il y a une thématique qui est donnée, il faut illustrer ça en dansant.
Donc les contraintes sont d'autant plus fortes que le breakdance au JO.
Mais carrément. Voilà.
Je compare mieux.
Mais du coup, on n'a pas le droit de savoir la thématique, je pense que c'est une surprise du coup.
Totalement.
Ok, donc c'est pas grave.
Ah, la thématique du match.
Ouais, c'est ça.
Alors là, ce match-là n'aura pas de thématique générale.
D'accord.
Ça va aller un peu dans tous les sens. Les thématiques dont je parle là, c'est vraiment les thématiques des impros. Prochaine improvisation, ça sera sur tel thème, avec tel défi, un nombre de danseurs, une durée. C'est parti, caucus, on appelle ça le caucus, c'est le temps où elles se mettent d'accord et on y va.
Par exemple, prochaine danse, c'est sur la liberté, 2 minutes 30.
Trois danseuses,
débrouillez-vous.
Donc ça, c'est un peu les règles du coup de votre match d'impro. Ouais. Et du coup, comment le public, est-ce qu'il a un rôle le public dans ça ou pas du tout?
Oui, il en a plusieurs. Il y a comme dans le match d'impro théâtre, le public va voter à la fin de ce qu'il a vu. Donc il y a une équipe qui présente sa version, l'autre équipe qui présente sa version, ou alors elles le font ensemble. Ça c'est aussi un challenge des fois. Et le public va à la fin dire, eh ben moi j'ai adoré ce qu'a fait l'équipe bleue, moi j'ai adoré ce qu'a fait l'équipe jaune. Même si tout ça en fait, franchement c'est un alibi. Enfin c'est pour de faux quoi, c'est pour jouer. Mais effectivement ça, il y a ce petit pouvoir entre guillemets du public où on joue la pseudo compétition qui n'en est pas vraiment une. Mais en tout cas le public peut voilà applaudir particulièrement ce qu'il a vu d'une ou de l'autre équipe. Et des fois il y a des petits défis où le public va intervenir. Exemple, il va monter sur scène, on va lui demander d'aller faire le décor, on va lui demander d'inventer la thématique prochaine, on va lui demander de faire un geste qui va être reproduit pendant le match. Donc il y a des catégories, il y a ce qu'on appelle des catégories, donc des petits défis où le public peut participer.
Donc le public a un vrai rôle pendant ce match d'impro. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi, qu'est-ce qui pourrait les motiver à venir, un petit mot pour le public?
Ouais, énergie de fou. Je pense que vous ressentez pas indemne. Enfin, vous ressentez un peu changé et surtout avec une énorme dose d'énergie. Sur scène, on donne tout. L'impro, il faut que tu sois hyper généreux et que tu te donnes en fait. Et ça, à chaque fois, on nous le dit quand les gens ressortent. Même d'ailleurs, on fait la hola pour le public qui ressort. Enfin voilà, on les chouchoute.
C'est très généreux. En émotion, en joie. Mais des fois aussi, ça nous prend, c'est triste, c'est fort, c'est puissant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui transparaissent au travers des improvisations pour que le public vibre. Donc le public est là pour vibrer et on veut l'embarquer.
Donc du coup, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des places peut-être?
Oui, bien sûr. Donc c'est notre match d'impro samedi 14 mars à 20h30 à la MPT Mon Plaisir à Angers. Et surtout, réservez vos billets en avance parce que ça se remplit très vite. Donc en fait, vous nous retrouvez sur notre Instagram ladi.angers et vous retrouvez en fait le lien pour accéder à la billetterie en ligne.
Donc si vous êtes attiré par la danse, plus particulièrement la danse improvisée, n'hésitez pas à aller faire un tour et peut-être que ça leur donnera peut-être aussi envie de rejoindre Ladi. Merci d'être venu dans Topette à toutes les deux et du coup comme vous l'avez dit, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations pour les prochaines séances par exemple, les prochains matchs, tout ce que vous faites?
Les stages aussi.
Les stages,
il y a des stages qu'on propose dans l'année et là il y en a un juste avant, le 13. Le 13 au soir, on fait un stage et ça va permettre aux gens de tester ce qu'ils vont ensuite voir le lendemain. Welcome.
Donc du coup, on peut le voir sur votre Insta et peut-être aussi sur Internet.
Insta. Le site Insta, est Insta. En construction depuis quelques années. Donc ladi.angers sur Instagram. Super. Et Facebook. Oui.
Super, merci d'être venu dans Topette.
Merci beaucoup Chloé, merci à vous, merci Ingrid, merci Elodie. Quand même une petite question avant de se quitter pour de bon, il faut avoir des prérequis en danse ou pas? Je ne sais pas si on l'a évoqué, ça vous précisez.
Aucun prérequis.
On peut ne pas avoir le rythme dans la peau.
Absolument.
Mathéo, on y va?
Mais bien sûr, on vient jouer en fait.
C'est très ludique, on vient essayer et on vient avec ce qu'on a. Et en fait, vous imaginez pas comment on est tous riches en possibilités. On est tous des danseurs et des danseuses potentielles. On a un corps, on sait bouger, y a pas de problème. Après, il faut juste savoir parler avec. Ça s'apprend.
Eh ben merci en tout cas pour cette belle énergie que vous avez su communiquer ce soir dans Topette et sur Radio G. Et puis hâte de voir tout ça le 14 mars et puis aussi sur les autres dates. Nous on se retrouve demain à 18h10. Matteo, Johan, quand même avant de se quitter, on peut retrouver vous le compte Instagram, le
Exactement.
Site internet non
Non, malheureusement on n'est pas encore sur un site internet, mais pourquoi pas dans le futur.
Il y a le site de Radio G pour héberger vos podcasts.
On pourrait.
Question de temps.
Non, dans tous les cas, juste oui, sur Instagram, toujours 2,5. Donc ça s'écrit 2,5. Avec un tiret du bas à la fin, je crois. Si je dis pas de bêtises.
C'est pas moi qui crée, c'est fort.
Non, mais voilà, dans tous les cas, c'est ça, 2,5 sur Instagram pour avoir des critiques ciné, les sorties de la semaine et puis retrouver aussi des interviews de réalisateurs, d'acteurs, etc.
Très bien. Voilà. Et merci beaucoup, Matteo, Johan.
Avec plaisir.
À dans deux semaines. Prenez soin de vous. Demain, 18h10. Topette.
Topette.
Qu'est-ce que je fous là?
Qu'est-ce que tu vas faire?